France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Forgerie médiévale, fausse charte et vraie du prix. Voici une histoire qui s'écrit sur des papyrus et sur des parchemins dans le secret des monastères pour réécrire le passé et fabriquer des preuves d'autant plus crédibles qu'elles paraissent anciennes. Le Moyen-Âge serait-il l'empire du faux? Des enquêtes sensationnelles d'hier et d'aujourd'hui pour démêler le vrai du faux.
Et à qui profite la fraude?
Dis donc, ton article, il était faux, hein?
Mais c'est exact, il était faux.
Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai?
Seul inconvénient, ici, ces documents, pour la plupart, sont faux.
Ben, c'est pourtant vrai.
Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai?
Mais non!
Le cours de l'histoire.
Il y a d'abord un premier point. Savoir si c'est un trucage, une peinture ou une statue qui aurait été mise là-dedans et qui aurait laissé son empreinte.
Xavier Mauduit.
Tu mens! Il ment!
Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais...
Tais-toi!
Un petit clin d'œil à Fantomas, évidemment, pour ouvrir cette émission sur le faux. Bonjour, Paul Bertrand.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes professeur en histoire médiévale à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes l'auteur de Forger le faux, les usages de l'écrit au Moyen-Âge et publié au Seuil. Le faux, nous l'entendons, nous, comme quelque chose qui a été créé pour duper. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on peut l'entendre de manière aussi simple?
Et non, le Moyen-Âge, c'est 1000 ans, donc c'est une longue période complexe où les choses évoluent et de fait, la notion de faux n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Au départ, le faux, ma foi, ça vient de l'Antiquité, où là, les choses sont très claires. Il y a le faux, il y a le vrai, le droit est très rigoureux là-dessus. Et puis, alors, après la période carolingienne, il y a une espèce de basculement, une lente descente vers quelque chose d'autre. Un moment où on récupère l'idée que tout compte fait, le faux, c'est pas aussi radical que ça. Qu'on pourrait parfaitement avoir des documents qui s'arrangent un peu avec la vérité, pourvu que ça réponde à des besoins, que ça remplisse des missions, que ça rassure une série de personnes. D'autant plus que, on se trouve au 10e, 11e, 12e siècle. On a perdu beaucoup de documents anciens, justement. On a un déficit de mémoire et on veut recréer de la mémoire. Donc oui, à ce moment-là, on a un faux qui n'est pas vraiment faux, qui est plutôt une sorte de jeu avec la vérité.
Donc il y a du vrai, il y a du fictionnel de l'inventé, et entre les deux, il y a une place pour quelque chose.
Exactement. En fait, il récupère cette vieille vision de Cicéron qui est de distinguer entre l'historia, ce qui est sûr, l'histoire c'est sûr, c'est du sérieux, donc d'un côté la fabula, ce qui est la fable, la légende, on peut pas y croire, et puis entre les deux, l'argumentum c'est un peu le ventre mou, c'est l'entre-deux, c'est ce qui n'est peut-être pas vrai, mais ce qui n'est pas nécessairement faux, ce qui est plausible. On est de l'ordre du plausible. Et cette idée de Cicéron est récupérée au Moyen-Âge par Isidore de Séville, par des tas de personnes. C'est appuyé sur tout un discours théologique, juridique, et ça devient quelque chose de naturel. On est dans l'argumentum en continu.
Et tout cela sur des documents, parce que bien sûr, historiens, historiennes travaillent sur les documents, et ces documents, il faut les étudier, ça tombe bien dans le cours de l'histoire aujourd'hui avec nous. Solène Girard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes restauratrice d'art graphique, spécialiste du papyrus. Alors, quand on dit papyrus, nous partons tout de suite en Égypte, dans notre univers mental. Or, non, les papyrus, vous les étudiez, nous sommes où avec vos papyrus?
Alors, on se trouve donc en Europe occidentale, à l'abbaye de Saint-Denis. Il se trouve que le papyrus, donc effectivement, ce n'est pas faux. C'est un support d'écriture antique qui a été fabriqué en Égypte et exporté dans tout le bassin méditerranéen. Le papyrus, c'est 4000 ans d'utilisation, on se rend pas compte, mais c'est près de 4 fois plus que le papier, 2 fois plus que le parchemin. Et le papyrus a été employé jusqu'au 11e siècle dans la chancellerie pontificale. Et il se trouve que à l'abbaye de Saint-Denis, on a conservé des originaux sur papyrus des rois mérovingiens, mais aussi des papes de l'époque carolingienne, des empereurs byzantins. Donc on a une collection exceptionnelle de papyrus des derniers papyrus utilisés en Europe catholique.
Ils sont conservés aujourd'hui, ces papyrus?
Aux Archives nationales de Paris.
Aux archives nationales, il doit y en avoir quelques-uns, la Bibliothèque nationale de France aussi, mais pas beaucoup aussi, il y en a quelques-uns.
Oui, il y en a quelques-uns, mais ceux qui sont les écrits des rois et sont en tout cas à Paris aux archives.
C'est-à-dire qu'il faisait venir depuis le monde méditerranéen des papyrus, parce que, je peux le comprendre, du monde byzantin, bon, on n'est pas très très loin, allez, la papauté, il n'y a qu'une mer à traverser, mais les rois mérovingiens utilisaient des papyrus?
Oui, tout à fait, dans la mesure où, en fait, ils veulent se placer dans la ligne même de la production de l'écrit, telle qu'elle vient du monde de l'Italie, telle qu'elle vient du monde méditerranéen. Et donc, forcément, il récupère un peu les modes d'expression diplomatique, hein, j'ai lancé un peu le mot, la pratique des chartes. Il utilise les systèmes qui viennent du monde antique, en tout cas, dont il s'imagine qu'il vient du monde antique. Donc, évidemment, il tente de récupérer le papyrus, d'écrire sur papyrus, pour ces raisons-là, et ces documents d'ailleurs ont un particulier prestige, hein. C'est pas pour rien qu'ils utilisent le papyrus, c'est parce que c'est un support qui les distingue des autres, c'est un support particulier, et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles à Saint-Denis on les a gardés, parce que c'était pas des documents comme les autres. En plus, vous imaginez, ça venait des rois mérovingiens, ça venait du pape, c'est pas n'importe quoi, et c'est pour ça que eux, on leur a donné une petite place un peu meilleure. Bon, pas totalement meilleur, puisque certains sont quand même tombés en pièces, mais malgré tout, un peu meilleur.
Oui, parce que Paul Bertrand, vous nous l'avez rappelé, le Moyen-Âge, c'est long. C'est-à-dire que les papyrus des rois mérovingiens, ce sont de vieux documents 11e ou 12e siècle.
Ah ben, complètement. Au 11e, 12e siècle, là, ce sont des documents qu'on retrouve peut-être dans le fond d'un carton, enfin dans le fond d'un carton, dans le fond d'une cave, un petit peu en se demandant exactement comment on va arriver à les tirer de leur état un peu pitoyable et comment on va essayer d'en faire quelque chose. Parce que clairement, si on les retrouve, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a envie d'en faire quelque chose. Parce qu'on a envie, justement, de se refaire une histoire qui manque. Au XIe siècle, comme à peu près toutes les abbayes et toutes les institutions ecclésiastiques de l'Europe, on a un déficit de mémoire, on a perdu pas mal de choses, il y a un moindre intérêt, une moindre autorité de l'écrit au Xe et XIe siècle, l'écrit vaut beaucoup moins. Si l'écrit vaut moins, on le conserve moins, on le conserve beaucoup plus mal. On va conserver l'écrit important. Ah, par exemple, les rois, les papes, ça marche bien. Mais les autres, bah, on va les laisser un peu tomber en pièces, et c'est vite fait, hein. Si vous laissez un papyrus dans le coin de votre cave, il ne faudra pas attendre une vingtaine d'années pour que vous retrouviez plus que des morceaux mangés par les vers ou par les souris. Donc là, ça va être un peu un problème. Et donc, 11e siècle, c'est un problème pour les moines. Tout d'un coup, ils se disent, on a un déficit de mémoire, qu'est-ce qu'on va faire ?
Et qu'il est difficile de conserver les documents.
Je vous répète que je range cet endroit régulièrement.
Régulièrement ? Non mais qu'est-ce que vous faites quand vous rangez ? Éclairez-moi ! Vous prenez tout ce qui est en papier dans le château, vous faites un tas ?
Je fais ce que je peux. Il y a énormément de références, figurez-vous.
Bah ben, raison de plus pour en prendre soin. Vous entreposez tout au même étage. Et vous éclairez à la torche, espèce de maboule. Et le tout sur des étagères en bois. Non mais c'est la moindre braise qui vole, vous aurez l'air fin. La bibliothèque d'Alexandrie, ça vous dit rien ?
Oui, bon, la bibliothèque d'Alexandrie, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé.
Tout a cramé, voilà ce qui s'est passé. Faut faire des entrepôts éloignés les uns des autres, avec des rangements en pierre ! Crétin, vous venez chercher des documents avec une seule lampe. Et vous les emportez ailleurs pour les étudier à la lumière du jour. On ne travaille jamais sur place. Mais rangez, nom d'un chien ! Vous n'imaginez tout de même pas, je vais faire tout ça tout seul.
Je range !
Non, non, vous rangez pas, vous déplacez des trucs. Moi, j'appelle ça glandouiller. C'est un glandeur! Un gros glandeur!
Kaamelott, évidemment, tout le monde l'a reconnu, d'Alexandre Astier, avec ici Christian Clavier et le père Blaise, c'est Jean-Robert Lombard. Dites-nous, Solène Girard, ils sont dans quel état ces papyrus mérovingiens?
Alors, vu ce qu'ils ont traversé, je trouve qu'ils sont dans un état plutôt remarquable. Mais il faut savoir qu'ils ont effectivement cumulé dans leur structure des tonnes et des tonnes de traces d'altérations, donc de trous laissés par des insectes, des souris, des déchirures, des cassures, des plis, des fibres qui sont partis, des lacunes et une tonne de colle aussi amenée par différentes époques, dont on en reparlera, une époque très particulière au XIe siècle. Et malgré malgré ça, ils ont quand même survécu, ce qui est assez exceptionnel puisque ce sont quand même des, le papyrus est fait en cellulose, donc c'est un matériaux qui se conservent beaucoup moins bien que le parchemin dans les contrées occidentales humides. C'est pour ça qu'on en a retrouvé beaucoup plus en Égypte, puisque le climat sec et froid, en tout cas à l'intérieur des tombes, est favorable à sa conservation. Mais il y en avait partout en Europe. Et donc on a un biais de conservation, puisqu'on n'en conserve que très très peu, en tout cas pour l'époque médiévale en France.
Ils étaient conservés d'ailleurs de quelle manière ? C'est sous forme de livre ou sous forme de rouleau ?
Sous forme de rouleau. Non, ils étaient vraiment... conservé en rouleau, et même au 19e siècle, quand ils sont arrivés aux archives nationales, on parle encore de Henri Bordier les décrit encore comme des écrits sur papyrus roulés à la manière des volumina de l'Antiquité et placés dans des boîtes en bois qui les abritaient tant bien que mal depuis des siècles.
Voilà, et depuis des siècles, et dans cette longue histoire des papyrus, il y a ce 11e siècle. Alors, que s'est-il passé, Paul Bertrand, au 11e siècle pour ces pauvres papyrus ?
Pour ces papyrus, comme pour beaucoup d'autres, les moines, comme je vous le disais, sont très perplexes. Ils ont un besoin de répondre à des questions, des problèmes de procès. Ils ont des biens qui leur manquent, des prérogatives qu'ils voudraient défendre. Et on n'en a plus de traces. Bon, et dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit on décide que voilà, c'est comme ça et on tente d'y aller un peu au culot. Soit on décide de faire simplement ce qui est tout à fait naturel. On recrée l'histoire, on refait de l'argumentum. Et donc là, on réécrit le texte d'une façon ou d'une autre. Donc, pour ce faire, l'idéal, c'est de le faire exactement comme il aurait dû être. C'est un peu l'idée. C'est d'écrire le texte, d'écrire la charte, d'écrire le document comme il aurait dû être. Il n'est plus là, mais s'il avait été là, ben, il serait comme ça. Donc, on va le reconstituer d'une certaine façon. En tout cas, c'est ce qu'il pense faire. Il pense reconstituer le document. Mais on va essayer de reconstituer vraiment très fidèlement. Comme exactement il aurait dû être physiquement, à la fois l'écriture, mais aussi la matérialité. Et donc, le problème, c'est le papyrus.
Comment ils ont fait alors ?
Alors, 11e siècle, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une période où les seuls à utiliser encore le papyrus, ce sont les papes, hein, très localement dans la chancellerie pontificale, mais en France, ça fait près de 300 ans que le papyrus n'est plus importé, a disparu des chancelleries, remplacé par le parchemin justement pendant l'époque mérovingienne. Donc les archives nationales conservent des originaux sur papyrus et des originaux sur parchemin. Et donc, les moines au XIe siècle se retrouvent à vouloir combler ce déficit archivistique avec des matières qu'ils n'ont plus. On ne peut plus se procurer, en tout cas à Saint-Denis, du papyrus vierge. Eh bien, on va remployer ce qu'on a sous la main, donc des papyrus originaux, déjà écrits par les rois Dagobert, Clotaire, les rois mérovingiens, les papes. Et on va usurper leur identité, on va se servir de ces textes qu'on va... qu'est-ce qu'il leur faut en fait ? Il leur faut le support papyrus, il faut qu'ils écrivent sur une surface vierge. Donc vous leur prenez leurs archives, ce sont des papyrus écrits d'un seul côté, mais le verso, il est vierge. Donc ils vont prendre deux papyrus écrits, ils vont les coller les uns contre les autres, texte contre texte, dissimulant ainsi les écritures à l'intérieur et obtenant une sorte de rouleau vierge en apparence, sur lequel, sur l'un des côtés, ils vont rédiger le document qu'ils estiment avoir perdu, peut-être enrichi de quelques clauses supplémentaires en leur faveur, voire totalement inventé, et qu'ils vont sceller avec d'authentiques sceaux prélevés dans d'authentiques documents.
Le texte qui était écrit sur ces papyrus, donc ce texte qui disparaît, hein, on entend bien, hein, ces deux textes collés l'un sur l'autre, c'était des textes de peu d'importance, c'est ça. Alors, ils étaient importants, bien sûr, mais ils allaient être moins importants que les nouveaux textes qui allaient être créés.
Alors ça, je pense que Laurent Morel serait plus apte que moi à répondre. Mais oui, en fait, ils vont conserver les documents qu'ils estiment d'un grand intérêt pour eux, qui sont légitimes à défendre leur cause, comme cet acte de Clovis II de 654, mais des documents de moindre intérêt qui voilà, qu'ils estiment, dont ils n'ont, voilà, ne plus avoir besoin, comme des jugements ou des privilèges qui leur ont été accordés, mais qui ne sont plus trop d'actualité, eh bien, ils vont sacrifier, d'une certaine manière, mais en même temps, le texte quand même reste à l'intérieur, du coup, ils ne l'effacent pas. Ils vont réutiliser ces textes et aussi ils vont s'en inspirer. Parfois, il y a presque des copies, pas des copies conformes, c'est un terme particulier, mais ils vont copier presque intégralement un original en rajoutant juste quelques petites choses. Voilà, donc.
C'est un vrai faux, quoi.
Oui.
On sent que là, il y a la volonté de Dupri. C'est pas le hasard qui fait ça.
Ah non, non, de fait. En fait, ils auraient peut-être voulu gratter le papyrus, mais ça, c'était pas possible. Donc, la seule solution, c'était de le reconstituer, de constituer un nouveau papyrus venant de nulle part. De fait, il y a une espèce on assume complètement son acte. Et ce ne sont pas les seuls à le faire. Alors, on a évidemment des fausses chartes, mais on peut faire des chartes, disons, trafiquées, une réécriture de l'histoire dans les chartes, mais on a une réécriture de l'histoire aussi dans des tas d'autres objets, ou par des tas d'autres documents. Ça peut être la monnaie, on l'a vu hier, mais ça peut être également, par exemple, les reliques. Enfin, il y a énormément d'objets qu'on n'hésite pas à reprendre et à recréer, en tout cas, avec une totale conscience de ce que l'on fait.
Avec la conscience de faire un faux, mais l'idée de duper est complexe parce que vous nous avez expliqué, Paul Bertrand, que le faux, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a ce qui est totalement vrai, il y a ce qui est totalement inventé, et entre les deux, il y a quelque chose. Là, on s'inscrit dans cet entre-deux, donc ils ont l'impression de faire bien.
Absolument, ils ont l'impression de faire bien, en tout cas, ils n'ont pas l'impression de faire mal. Ça, c'est certain. En fait, tout ça vient de très loin. Il y a énormément de justifications. Ben, quand on sait, par exemple, qu'ils sont nourris de la pensée de Saint Augustin, mais Saint Augustin qui lui-même dit, vous savez, le mensonge, c'est pas mal. Il y a des moments où on peut mentir. Le mensonge, si c'est pour une bonne cause, c'est tout à fait tolérable. Et quoi de meilleure cause, évidemment, que d'essayer de soutenir la cause de Saint-Denis. Et puis, à côté de cette question du mensonge, il y a la question, tout simplement, du droit lui-même. Le droit, à cette époque, notamment via ce qu'on appelle les fictions, la fiction juridique, et même la pensée fictionnelle, j'y reviens dans une seconde, le droit autorise que l'on en prenne un petit peu à son aise avec la réalité. C'est pas un problème. La fiction elle-même, les médiévaux, en fait, c'est assez impressionnant, mais vous savez, la fiction, c'est un petit peu le trou noir des études, du point de vue littéraire pour le Moyen-Âge. Alors, on voit la fiction revenir, évidemment, au fin 11e, 12e siècle, hein, les chansons de gestes, le monde laïque qui reprend les romans de chevalerie. Bon, là, on y est en plein, et là, c'est évidemment de la vraie fiction. Puis, il y a la fiction antique, qui est bien connue, mais entre les deux, où est la fiction? Où sont les romans? Où est l'auteur qui s'assume et qui invente son petit monde? Ben, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, il n'y en a pas en apparence. Mais dans les faits, la fiction, elle se diffuse par capillarité dans tout le discours ecclésiastique, qui est très à l'aise avec l'idée de pouvoir justement insérer un discours plus ou moins fictionnel dans les choses, à condition, dans les récits, à condition que cela fasse en quelque sorte, ça remplisse des missions acceptables, des missions tolérables, et c'est ainsi que on n'hésite pas à améliorer en quelque sorte un document, et donc à jouer un peu avec cette idée de fiction, tout comme on rédige des vies de saints qui sont plus ou moins trafiquées là aussi, mais avec une énorme décontraction, parce que tout naturellement les saints, même si on les connaît bien, ce qui compte c'est pas tellement ce que l'on sait d'eux, mais c'est surtout ce que l'on voudrait faire passer comme message.
Et puis oui, dans l'intérêt en plus parfois d'obtenir un bénéfice, et ça c'est toujours très intéressant, hein, d'aller jusqu'au bout de sa fiction inscrite dans une réalité vécue pour obtenir par exemple une donation.
Il y a là, comme dans toutes les bibliothèques du monde, la trace, la preuve écrite des événements passés. Seul inconvénient, ici, ces documents, pour la plupart, sont faux. Ils forment la galerie des grands faux de l'histoire qui ont pu bouleverser, dès l'Antiquité, la vie des gens comme la vie des États. Ainsi, ces faux manuscrits, fabriqués au 8e siècle, qui portent une responsabilité politique quasi millénaire. Voici la légende. Au 5e siècle, l'empereur romain Constantin souffre de la lèpre. Ses médecins lui conseillent de prendre rien moins qu'un bain de sang d'enfant qu'on aura égorgé. Les mères viennent supplier l'empereur qui renonce au terrible remède. La nuit, les apôtres Pierre et Paul apparaissent à l'empereur et lui conseillent d'aller le lendemain rendre visite au pape. Le lendemain, Constantin remet son diadème au pape en signe de reconnaissance. Au 8e siècle, l'Église inventera de toutes pièces ces documents qui rappellent la légende et viennent sceller une prétendue reconnaissance et soumission au pouvoir pontifical de la part des empereurs. C'est la fameuse donation de Constantin. Dans ce faux, il y a toute la querelle du pouvoir temporel face au pouvoir spirituel. Et il faudra attendre 700 ans pour s'apercevoir de la supercherie.
Hervé Brusigny, journaliste qui s'exprimait à propos de la donation de Constantin. Expliquez-nous, Paul Bertrand, de quoi il s'agit, parce que cette donation-là a eu des effets considérables.
Ah mais c'est le faux emblématique du Moyen-Âge, hein, un des plus, le faux emblématique même du monde ecclésiatique, du monde catholique. Comme l'a dit l'extrait, le problème, ou plutôt le fait est que c'est un texte qui, dans lequel Constantin aurait donné au pape non seulement les territoires pontificaux, je schématise un peu, mais aussi un pouvoir temporel. Donc ça veut dire que Constantin, en quelque sorte, donne un véritable pouvoir politique à la papauté. C'est un discours très fort et sur lequel la papauté va s'appuyer largement, surtout à partir du moment, évidemment, où le document apparaît, car il n'est pas créé à l'époque de Constantin, mais probablement au 8e, comme le disait le texte, ou peut-être même au 9e siècle, donc à la fin du monde carolingien. Et à ce moment-là, on se trouve devant un document qui sort de nulle part, qui veut donc imposer un certain pouvoir pontifical, qui va s'insérer d'ailleurs dans une énorme compilation juridique, elle-même complètement trafiquée de toutes pièces qu'on appelle les décrétales pseudo-isidoriennes. C'est un ensemble colossal de droits, un bric-à-brac juridique dans lequel vous avez à la fois de la géographie, donc des vies de saints, mais aussi des textes, des chartes, des décrétales pontificales, des extraits de conciles. Enfin, il y a de tout dans ce machin. Et puis, là, vous avez au milieu la donation de Constantin qui va alors avoir un succès fou. À partir de quand? Surtout à partir du moment grégorien. Du moment où, tout d'un coup, au XIe siècle, le pape prend les choses en main et commence à tenir tête à l'empereur, au roi, et à essayer d'imposer un pouvoir. Quel meilleur outil pour imposer ce pouvoir que cette donation de Constantin qui est dans ses tiroirs depuis déjà quelques siècles?
Oui, c'est ça. Il brandit ce document en disant « Regardez, depuis le 4e siècle, Constantin, il avait bien dit que le pape devait dominer l'empereur. » Alors bon, c'est pratique, alors que c'est quelque chose qui a été forgé. Solène Gérard, on peut rappeler malgré tout que les documents qui sont conservés dans les monastères sont souvent réutilisés. C'est une pratique aussi habituelle. C'est quelque chose qui est courant quand on a besoin de parchemins, on reprend d'anciens parchemins qui ne sont pas utilisés. Pour dire dans la matérialité de la chose, ces gens-là savaient faire.
Oui, je pense qu'il y a un vrai savoir-faire, une vraie tradition aussi, parce qu'effectivement, la matière coûtait cher. La matière d'écriture, que ce soit le papyrus, au XIe siècle, on est déjà sur un matériau qui a disparu, pour le dire grossièrement. Mais les parchemins aussi, c'était compliqué de s'en procurer. Et donc, forcément, imaginez que vous avez des parchemins écrits qui ne vous servent plus ou auxquels vous n'accordez plus grand intérêt. Eh bien, ces parchemins peuvent encore servir à renforcer des documents fragilisés que vous estimez plus importants. Et ça s'est fait vraiment de tout temps. Se servir de vieux documents pour en renforcer d'autres. À Saint-Denis, ils l'ont fait donc pour fabriquer leurs faux. Ils se sont servis de chartes carolingiennes. Qui n'était plus de grand intérêt pour eux, pour renforcer ces fameux faux sur papyrus qu'ils étaient en train de fabriquer. Et c'était d'une pierre deux coups, puisque d'un coup, ils restauraient ces papyrus et en même temps, ils cachaient les textes originaux qu'il y avait de l'autre côté. Et ça leur faisait économiser du papyrus, puisque normalement, il leur faut deux papyrus pour faire un faux. Là, là, ils n'ont plus besoin que d'un seul papyrus et puis de quelques parchemins dont ils n'ont plus besoin. Et ça, c'est une pratique qui s'est faite pendant tout le Moyen-Âge et même les documents originaux qu'ils ont conservés, je pense à l'acte de Clovis II, a été restauré avec des chartes carolingiennes qu'on a conservées, qui sont toujours aux archives nationales. Lors de leur restauration plus tard, même au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est une pratique qui est encore avérée, de coller, en fait ça s'appelle un doublage, donc de coller l'œuvre ou le document fragilisé sur un support plus solide, donc des toiles ou des parchemins. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup et c'est grâce à cette pratique de restauration et de conservation qu'on a miraculeusement conservé dans le temps des documents qui sinon auraient complètement disparu.
J'ai un souci malgré tout, oui. Parce que j'entends bien que nous avons des gens du XIe siècle qui ont besoin de papyrus, mais il n'y en a plus. Alors on va prendre les vieux papyrus, c'est écrit que d'un côté, donc vous en prenez deux, vous collez les deux textes et vous avez un rouleau, mais enfin, il faut en prendre deux. J'entends bien tout ça, vous nous dites, pour économiser du papyrus, on n'en prend qu'un et on le colle sur un parchemin très ancien. Jusque-là, ça me va, oui, comme ça on peut en faire plus. Mais dites donc, vous nous avez dit qu'ils avaient des trous, ces papyrus, qu'ils étaient tout abîmés. Donc on va voir le texte du dessous qui est sur le parchemin.
Oui, ça c'est quelque chose que j'ai compris grâce au projet Pape Médane, en partenariat avec la FSP et le laboratoire du CRC. C'est que j'observais en fait sur les papyrus, d'un côté des taches sur des versos, justement des espèces de taches d'encre que je ne comprenais pas d'où ça venait, et puis c'était pas accidentel, sinon ça aurait été sur le texte. Bon voilà, puis c'était des encres totalement différentes des encres du texte. Et de l'autre, il y avait des trous entourés d'encre. Et donc en fait, récemment, j'ai réussi à faire le rapprochement en me disant, mais oui, c'est très simple en fait. Si vous prenez deux papyrus écrits, que vous voulez coller ensemble, mais ces deux papyrus sont déjà endommagés par des insectes, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, vous les collez ensemble, il y a un côté où vous allez voir le texte du papyrus du dessous passer vous allez voir à travers le trou. Donc ça peut discréditer en fait la cause des moines, ça peut les trahir. Donc ils se sont servis, ils ont fait très simple, ils ont pris de l'encre avec un pinceau assez gros, hein, faut le dire, et ils ont fait des espèces de patchs énormes comme ça sur les trous où à travers desquels on voyait le texte en dessous. Ils ont fait des traces d'encre partout, ce qui fait que aujourd'hui quand vous décollez les papyrus, vous avez d'un côté un papyrus avec un trou entouré par de l'encre, et de l'autre côté, sur l'autre papyrus, vous avez une tache d'encre exactement de la forme du trou.
C'est comme dingue. Un pochoir. Oui. Ah ouais, donc ils ont fait on a fait un pâté, mais c'était pour dissimuler le faux. C'est incroyable quand même. Paul Bertrand, Forger le faux, les usages de l'écrit au Moyen-Âge que vous publiez là. La notion de faux, nous l'entendons bien, elle est beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Elle demande, beaucoup de savoir-faire, faut être très malin, c'est pas simple tout ça. Ça se passe où? Ça se passe dans les monastères? Ce sont les moines qui écrivent cela ou ça se passe autour du pouvoir royal par exemple?
Alors clairement, à cette époque, jusqu'au XIe siècle, XIIe siècle, principalement, ça se passe, c'est les clercs qui s'occupent de ça. Ça se passe dans les monastères, et même quand ça se passe au niveau royal, autour du roi, on a des clercs qui ont évidemment toute cette compétence, qui sont nourris de Saint Augustin, qui leur dit, mais c'est pas mal de mentir, ils sont nourris de toutes ces pensées juridiques, ils sont nourris de tout ce cadre culturel et spirituel, et donc, ils arrivent tout naturellement avec aussi leur technique. Ils arrivent avec leur technique, avec leurs compétences, on l'a vu là, une capacité de travailler le support, mais aussi une capacité d'écrire, de recopier des écritures plus anciennes. Ils ont une véritable technicité qu'ils maîtrisent. Ils peuvent tenter également de reconstituer la mise en page d'un document. Ils n'hésitent pas aussi, quand le besoin se fait sentir, à aller chercher des fossos ailleurs, ici ou là, enfin des fossos, des véritables sauts ailleurs pour pouvoir les accoler. Ça va très loin. Hein. Par exemple, on est à la fin du XIe siècle ou au cours du XIIe siècle, on se trouve devant des documents que l'on conserve, que ce soit à Saint-Denis ou ailleurs. Les moines sont très contents de les avoir, mais il y a un petit problème, il y a une petite frustration. Ces documents, théoriquement, devraient avoir un sceau pour être valide. Alors, évidemment, quand ils ont été créés au Xe siècle ou au XIe siècle, on n'en utilisait pas, mais là, au XIIe, on en utilise maintenant. Ben, qu'à cela ne tienne, hein. On va en chercher un, et puis on va en coller un dessus. C'est pas un problème. L'idée n'est pas de tromper, mais c'est de faire adéquation avec la réalité, avec les besoins réels, tout naturellement. Donc voilà, il baigne dans une atmosphère technologique et efficace.
Oui, et puis c'est su, j'imagine qu'il y a l'idée que les faux sont constitués, donc dès lors, être victime de faux, c'est jamais bien plaisant. Et on imagine d'ailleurs du côté du pape comment ça se passe, parce que le pape, c'est l'autorité, donc faire un faux papal, c'est génial.
À faire un faux papal, c'est génial. Beaucoup de gens font des faux papaux parce qu'en fait, l'idéal, si vous voulez faire un faux qui est de l'efficacité, un faux qui en jette en quelque sorte, l'idéal, c'est un faux royal, c'est un faux pontifical. Là, avec ça, vous faites sérieux, quoi. Là, c'est de la vraie histoire qu'on reconstitue. Donc, 11e siècle, ça passe tant qu'on ne dépasse pas certaines bornes. Hein, au 11e, 12e siècle, ça passe tant qu'on ne dépasse pas certaines bornes, parce que si vous allez un peu trop loin, vous faites taper sur les doigts, c'est pas très grave, mais quand même, vous risquez de vous faire remettre à votre place. Donc, il y a des limites quand même qu'on ne doit pas dépasser dans la manipulation de l'histoire. Par contre, à la fin du 12e, là, les choses commencent à changer. Le monde, d'ailleurs, est en train de changer. Et tous les papes ne sont plus aussi coulants que n'étaient les prédécesseurs des 11e et 10e siècles. À ce moment-là, ça commence à être un peu plus compliqué.
Oui, parce que les moines font des faux et les papes font des bulles.
Examinant donc plus précisément la bulle, nous trouvons, dans sa partie supérieure où adhère le fil, qu'elle est quelque peu boursouflée. Et quand nous faisons tirer un peu sur ce fil du côté boursouflé, sans violence, la bulle restant dans l'autre fil, le fil de ce côté se sépare d'elle sans aucune difficulté, et en son sommet apparaît même une trace d'incision. Avec cela, nous avons débusqué le faux avec certitude. La bulle ayant été extraite d'autres lettres, elle a été insérée à celle-ci par les vis de la fausseté, comme nous le comprenons plus complètement de ces lettres-ci, que nous vous envoyons pour qu'elles vous soient remises en main propre, pour une plus grande certitude.
Cassandre Puel dans le cours de l'histoire sur France Culture qui lisait cette lettre du pape Innocent III adressée à l'archevêque de Milan. Nous étions en 1198. De quoi s'agit-il, Paul Bertrand, ici ?
Il s'agit d'une... l'interprétation est très calme, mais il s'agit, à mon avis, d'une très grande colère d'Innocent III. Innocent III qui devait avoir un sale caractère, probablement. Grand juriste, par ailleurs, Innocent III devient pape, il arrive au pouvoir, il monte sur le trône de Saint-Pierre, tout va bien jusqu'à ce qu'il se rende compte que dans son dos, des fausses lettres pontificales commencent à circuler, dans lesquelles on ne dit pas toujours du bien de lui, ça ne lui fait vraiment pas plaisir, il est piqué au vif, il arrive à mettre la main sur les faussaires, il leur fait cracher le morceau, la situation donc est mise sur le tapis, et puis alors il est furieux et il dit c'est terminé. Maintenant, le trafic, la manipulation des lettres pontificales dans mon dos, c'est fini. Maintenant, fin de la récréation, on ne joue plus. Et je vais vous expliquer la vie, je vais vous expliquer comment on fait des faux et surtout comment on ne peut plus en faire. Et donc, comme l'a dit l'extrait ici, Innocent III explique dans une lettre qu'il envoie à ses évêques un peu partout dans la chrétienté, je vous explique, moi-même, j'ai appris comment les faux étaient faits. Et lui-même, en fait, clairement, il fait venir des gens qui arrivent avec des lettres pontificales, qui veulent les faire confirmer, qui ont l'air plus ou moins douteuses. Il est tout content parce qu'il a toute une technicité qu'il a dû apprendre, probablement chez les faussaires eux-mêmes. Hein. On n'apprend jamais aussi bien le métier de faux qu'auprès d'anciens faussaires. Il a appris les techniques. Donc, il arrive, on vient apporter une charte. Il faut imaginer, il est sur son trône, on vient apporter une lettre pontificale. Il prend la lettre exactement comme dans l'extrait. Il regarde d'un œil un peu narquois les gens qui sont devant lui. Il la tripote dans tous les sens. Il dit, oh, mais quand même, l'écriture, mais enfin, je peux douter. Mais on va voir. Et probablement, à ce moment-là, il fait exactement ce que tout technicien qui sait comment on fait un faux procède. Il va voir si la fausse bulle, c'est-à-dire si le sceau est véritablement authentique. S'il est authentique, il doit tenir. La bulle pontificale doit tenir, elle doit être bien accrochée. Si elle n'est pas authentique, eh bien, elle a été glissée, en quelque sorte, dans la languette qui la tient au parchemin. Et donc, si elle a été glissée, d'une façon ou d'une autre, ben, elle va partir toute seule, elle va tomber toute seule. Un seau, que ce soit en scie ou en plomb, ça tient pas forcément très bien. Donc là, si le travail a été mal fait, ou même si le travail a été fait comme ça par le faussaire, ça va pas marcher. Et de fait, hop, la bulle en plomb se sépare du document, et voilà, donc le faux est démontré, et le faussaire peut retourner tout piteux chez lui. Donc là, il a montré, par A plus B, ce que c'était que les faux, et comment on ne doit plus en faire désormais.
Bon ben voilà, Solène Girard, hein, on va pas nous aujourd'hui tirer sur les bulles papales et sur les seaux, voir si ça tient bien et si ce sont des vrais. Mais pour saisir, vous êtes restauratrice de ces documents, pour saisir le vrai, le faux, faut prendre en fait l'ensemble de l'environnement du document. C'est pas simplement le papier, enfin papyrus ou parchemin plat et l'écriture, c'est tout un ensemble.
Oui, alors le comment dire, déterminer ce qui est vrai ou faux. Alors ça, ce sont vraiment les experts, les médiévistes qui vont dire, enfin, avec les caractéristiques de l'écriture. Mais pour les bulles, alors malheureusement sur on sait que sur Saint-Denis, enfin pour le dossier de Saint-Denis, il y a des fausses bulles qui ont été fabriquées et on sait qu'elles étaient scellées. Avec, a priori, d'authentiques bulles de plomb, puisque Jacques Doublet les décrit en 1625. Il n'a accès qu'aux faux, et il pense qu'elles sont parfaitement authentiques. Et donc, c'est une description très importante pour nous, parce qu'il décrit, il transcrit donc tout le texte, et il dit, cette bulle écrite sur écorce d'arbre, pour parler du papyrus, est scellée d'un sel de plomb sur lequel on peut lire Stéphanie, et voilà. Il l'a décrit très précisément. Et aujourd'hui, on n'a plus ces bulles de plomb, mais grâce à des techniques analytiques faisant appel au rayonnement X, on parvient à détecter les traces de plomb en fait au bord des documents. Ça, les scientifiques du laboratoire, en lançant des cartographies, c'est un élément qui est très lourd, qui se détecte très très bien au rayon X. On arrive à prouver que Jacques Doublet, ce que disait Jacques Doublet, que ce soit donc des vraies bulles ou des fausses bulles. Ça, c'est hyper intéressant.
Ah oui, parce que la technique ici entre en ligne de compte avec la volonté d'identifier le vrai, le faux, qui n'a pas attendu les techniques récentes. Hein. Ça, faut le souligner parce que, comme vous le disiez, déjà au moment de recevoir des documents, c'est-à-dire les contemporains eux-mêmes devaient s'interroger. Et par la suite, ça a été souvent le cas.
Ah, par la suite, ça a été même systématiquement le cas, parce que lorsqu'on arrive, en effet, à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, la notion de faux a changé, et donc désormais, le faux n'étant plus véritablement bienvenu, là, on y regarde à deux fois. Déjà auparavant, on avait un certain sens critique. Au XIe siècle, déjà, on savait plus ou moins à distinguer certains documents qui étaient un peu trafiqués, mais à partir du XIIIe siècle, là, les choses deviennent extrêmement claire, extrêmement sérieuse, et on a des techniciens qui sont derrière les princes, qui sont derrière le pape et qui, là, vont véritablement le conseiller, vont être des experts, exactement comme nos experts actuels, hein, qui détectent la qualité d'un document, s'il est authentique ou pas. C'est la même chose au Moyen-Âge, avec la même qualité. On peut comparer les rapports d'expertise qu'on a trouvés pour le fameux procès de Robert d'Artois, des faux de Robert d'Artois, dont on parlera peut-être tout à l'heure. C'est vrai que ce rapport d'expertise est vraiment impressionnant de précision, de finesse, et de fait, les faux qui avaient été bricolés à cette époque-là n'ont pas résisté du tout à l'expertise.
Vous avez dit Robert d'Artois ?
J'ai dit Robert d'Artois.
Celui des rois maudits ?
Celui des rois maudits.
Que viennent faire des faux dans les rois maudits? En même temps, quand on connaît un peu les rois maudits, on se dit qu'ils sont prêts à tout, ces gens-là. Alors expliquez-nous.
Ah, c'est une très belle histoire, si j'ose dire. Donc, une très belle histoire de faux, du moins. Donc, on se trouve là, au moment où Robert d'Artois, si vous vous souvenez de vos lectures ou de vos séries, où Robert d'Artois est tout embêté parce qu'il a perdu son comté, Mao a mis la main dessus, il veut le récupérer à tout prix, pas moyen, au même moment, évidemment, là aussi, les rois maudits, Philippe de Valois a pris le pouvoir, est au pouvoir, plutôt, il est bien obligé, hein, puisque là, il est le premier de sa lignée, le premier de sa dynastie à être maintenant sur le trône, et il est donc face à Robert qui ne donne pas de véritable preuve de cette propriété de son comté. Pas moyen, même les témoins, ça marche pas. En fait, ça marche plus du tout, le coup des témoignages. Là, maintenant, on est arrivé à un moment, on est au fin du XIIIe, début du XIVe siècle, où ce qui compte, c'est l'écrit désormais. L'écrit a repris de la valeur, somme toute. Hein. Et comme l'écrit a repris de la valeur et de l'autorité, ce qu'on demande à Robert pour prouver que son comté, il est bien à lui, que ce comté, il est bien à lui, ce sont des chartes, ce sont des documents officiels, bien sérieux, bien solides. Robert est embêté, mais un peu derrière lui vient lui frapper, vient lui tapoter l'épaule une dame qui s'appelle Jeanne de Divion, une aventurière du nord de la France, qui a des origines seigneuriales un peu désargentées et qui gravite autour des milieux royaux, des milieux comtaux. Elle est là en train d'essayer de flairer le bon moment. Et là, elle sent que c'est le bon moment. Et elle lui dit, Robert, écoute, je vais te trouver les documents. Robert dit, ok, bon, vas-y. Et elle lui apporte un premier document. Est-il pensable que c'est un document authentique dans un premier temps ou pas? On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il lui dit, bon, en voilà un, amène les autres. Et de fait, elle en amène d'autres. Et des documents qui viennent de son atelier de faussaire. Car Jeanne de Divion a monté autour d'elle un véritable atelier de faussaire avec des gens qui vont lui chercher des faussos, ici ou là, avec des techniciens de l'écrit qu'elle a été chercher du côté de la chancellerie royale, avec d'autres documents similaires pour pouvoir bien les imiter. Là, on n'est plus dans on veut reconstituer quelque chose pour refaire l'histoire. Là, on veut véritablement falsifié, on veut duper. On veut duper Mao, le roi de France. On veut duper Philippe VI. Alors, les documents arrivent devant Robert, tout content. Il les amène à Philippe VI qui dit « Ok, maintenant, passons aux choses sérieuses, mes experts. » Et les experts de Philippe jettent un regard, plus qu'un regard, ils commencent à analyser le document et les chartes, et ils se rendent compte que les documents sont criblés de petites erreurs, à la fois en interne et en externe, c'est pas les bons termes, on passe du tu au vous, il y a pas la bonne écriture, le sceau, ça, le document a l'air trop frais pour ce qu'il devrait être, enfin bref, les documents n'ont pas du tout l'air conformes. Donc qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, qu'est-ce que les experts rendent? Un rapport. Et qu'est-ce que dit Philippe à Robert, si c'est pas possible, il faut que tu abandonnes l'affaire et le procès se termine lamentablement puisque donc Robert s'en va, le gang est démantelé, les différents membres du gang sont soit mis en prison, soit pardonnés à condition qu'ils dénoncent leurs copains, rien n'a changé, et Jeanne de Divion elle-même, la pauvre, passe sur le bûcher. Sur le bûcher, pour un acte de falsification, c'est très très rare. Probablement, Philippe VI, dans cette espèce de grand procès contre le faux, a-t-il voulu faire un geste fort. Il venait d'arriver au pouvoir, il devait montrer qu'il était inflexible, qu'il était tout puissant et qu'il n'avait peur de rien et surtout pas de quelqu'un qui faisait ainsi, comme Jeanne de Divion, une sorte de crime de lèse-majesté, osons le terme.
Avec ici, Mao qui a encore gagné. Insupportable, hein, la tante Mao qui s'opposait à Robert d'Artois dans Les Rois Maudits.
C'est une situation particulière que cette situation de qui en fait n'est pas la seule. Parce que Philippe VI, une fois qu'il se rend compte que des faux comme ça peuvent être mis en place, il ne va pas lâcher l'affaire non plus. En fait, à la suite de l'affaire des faux de Robert d'Artois, il va lancer ses experts à la traque des tas d'autres faux autour de lui. Et là, c'est moins connu, parce que ce n'est pas dans Les Rois Maudits, forcément, mais il y a plein d'autres petites affaires de chasse aux faux qui vont suivre dans le courant du règne de Philippe VI, dans lequel les gens vont là aussi soit passer à la potence, soit être mis en prison pour des affaires de faux de moindre importance, mais des affaires de faux quand même. En fait, le faux, c'est terminé.
Le faux s'est terminé à partir de ce moment-là parce qu'il y a la capacité, mais sans doute plus la volonté de les détecter et un nouveau rapport à l'écrit. Parce que quand on vous lit Paul-Bertrand, forger le faux, les usages de l'écrit au Moyen-Âge, forger le faux, c'est une chose, mais c'est plus, et on l'entend depuis que vous nous expliquez, depuis le début de cette émission du cours de l'histoire, combien l'écrit a une place différente à des moments du Moyen-Âge, et que ce n'est pas la même chose au temps des Mérovingiens, que ce n'est pas la même chose au XIe siècle, ce n'est pas la même chose au temps des rois maudits.
Absolument. Et c'est une des choses les plus impressionnantes dans la façon dont on fait l'histoire ces dernières années. Depuis une vingtaine d'années, on s'est rendu compte que l'écrit a une grande importance, non seulement parce que c'est là-dedans qu'on va puiser nos informations comme historien, mais aussi comme historienne, mais aussi parce que c'est ce sont des documents, ce sont des textes, ce sont des œuvres qui sont les reflets de l'histoire, qui sont des acteurs de l'histoire directement. Et c'est vrai que l'écrit mérovingien a une certaine place, une certaine importance, une certaine gloire, qu'il va conserver d'ailleurs hein, tout au long de la vie de l'abbaye de Saint-Denis. Et c'est vrai qu'au IXe siècle, l'écrit devient très important pour Charlemagne. Souvenez-vous des capitulaires carolingiens hein, de vos leçons d'école. Puis après ça, au Xe siècle, on a une perte d'autorité de l'écrit, une sorte de décrue à la fois en quantitative mais aussi qualitative. On s'intéresse beaucoup moins à l'écrit. On commence à écrire un peu n'importe quoi d'ailleurs à ce moment-là. Et à partir du XIIe siècle, eh bien, le monde change. Mais en fait, le monde change de manière globale. L'université apparaît, les villes se développent, la réforme grégorienne elle-même se met en place. Les princes prennent du pouvoir réellement, de manière pyramidale. Le roi de France, l'empereur, le pape construisent leur pouvoir sur l'écrit. Le grand commerce se met en place. La banque apparaît. L'économie se transforme, l'économie... Bref. J'en passe. Le monde change et le monde a besoin d'autorité de l'écrit. A besoin de l'écrit, mais d'un écrit autorisé. On ne peut plus faire sans. On ne peut plus vivre normalement cette nouvelle donne sociale, économique, politique et religieuse sans un écrit solide. Et donc voilà, c'est le moment où on siffle la fin de la récréation, oui, comme je le disais. Désormais, le faux n'est plus tolérable. Désormais, l'argumentum, on oublie. Et on passe alors à cette distinction blanc-noir, vrai-faux, que nous connaissons de nos jours. Cette idée que désormais, le faux n'est plus tolérable, que le faux, c'est le mal.
Et c'est ce qui se retrouve au XIXe siècle. Au XIXe siècle, quand il y a ce grand intérêt pour les temps du passé, et notamment pour le Moyen-Âge, hein, une relecture du Moyen-Âge, avec un regard nouveau porté sur ces documents anciens.
Ce prétendu diplôme de Dagobert présente tous les caractères du faux le plus évident. C'est ce qui ressort des privilèges exorbitants qu'il concède, de l'amende exagérée prononcée contre les infracteurs, des caractères de l'écriture, de l'inexactitude des dates et de l'impossibilité des souscriptions. Il est d'ailleurs certain que les exemptions contenues dans ce diplôme ne furent accordées à l'abbaye de Saint-Denis que par Clovis II, fils et successeur de Dagobert, mais avec beaucoup de restrictions. Enfin, l'aspect de l'écriture et la tentative maladroite faite par le faussaire pour figurer au bas de l'acte une sorte de signature autographe de Dagobert viennent surabondamment prouver que c'est là une pièce fabriquée et tous les savants l'ont reconnue pour telle.
Avec ici Jean Telet, Alexandre Telet, un historien, un archiviste du 19e siècle. Nous étions en 1850. Alors Solène Gérard, votre travail n'est pas de chercher les faux. C'est pas tout à fait ça. Même si votre thèse s'intitule « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Papyrus médiévaux des archives nationales, écrire, remployer, restaurer. » Sous la direction de
Thierry Sarment et Marie-Adélaïde Nilène.
Voilà, avec cette volonté d'essayer de saisir ce que sont ces faux, leur fabrication, leur matérialité. Au moment d'ailleurs de restaurer ces documents, parce que là je parle vraiment à la spécialiste de la restauration, vous avez travaillé sur les papyrus égyptiens déjà ?
Oui, pour mon mémoire de fin d'année de master de l'INP, j'ai restauré un livre des morts des Ptolémaïques appartenant au musée du Louvre. Et puis depuis, mon diplôme, je restaure des papyrus avec ma collègue Eve Menei. Et donc en fait, les papyrus des Archives nationales seront restaurés, mais pour restaurer un document, il faut comprendre ce qu'on a sous les yeux. Et en fait, c'est toute la complexité de cette collection qui est très connu du point de vue textuel. Les historiens, les médiévistes, ils ont très bien étudié les textes, mais leur histoire matérielle, la manière dont ils ont été produits à l'époque mérovingienne, écrits, quelles encres étaient utilisées, comment ils ont été remployés, falsifiés au XIe siècle, puisqu'ils ont été coupés, découpés, collés, recollés dans tous les sens, doublés, et puis ensuite, au XVIIe siècle, redécouverts par Jean Mabillon. Et puis à ce moment-là, eh bien, donc on redécouvre les originaux, mais on les colle sur d'autres supports, donc on cache les faux. Et donc les faux sont redécouverts au XIXe siècle. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez des papyrus qui ont tout un tas de transformations, de traces de colle. Et donc, pour les restaurer, il faut comprendre d'où ça vient, ce que c'est, pour savoir ce qu'on garde, ce qu'on enlève, dans le but, bien sûr, de les préserver au mieux et de les transmettre aux générations futures. Donc, c'est vraiment dans le respect de leur signification, de leur valeur culturelle, historique, pas artistique, mais...
Quoique.
Oui, aussi.
Parce que quand on voit la calligraphie, non, mais c'est vrai, ils sont très, très beaux. Et sur l'exposition consacrée aux faux et aux faussaires aux Archives nationales à Paris, on voit des documents absolument exceptionnels, des papyrus.
Oui.
En tout cas, ces papyrus que vous nous évoquiez, ceux collés sur des parchemins.
Exactement. Et d'ailleurs, le texte que vous venez de passer d'Alexandre Tollet parle du document qui est actuellement exposé aux Archives nationales, qui est un privilège d'immunité de Dagobert, qui a été, lui, qui n'a pas été touché au XVIIe siècle, ça c'est assez magnifique. C'est un des seuls qui est resté. Mabillon n'y a pas touché, hein, en tout cas, et il n'en parle pas. Et il a été, on va dire, démonté qu'au XIXe siècle. Ce sont vraiment les archivistes Tollet, Le Trône, Tardif, qui ont décollé les chartes carolingiennes qui avaient été collées au XIe par les faussaires. Au 19e, et donc là on redécouvre, il y a un Clotaire 2 et un Clotaire 3 de l'autre côté, oh là là. Et donc Alexandre Tollet est presque fasciné à se dire, mais comment ce diplôme a pu passer? Il est tellement extravagant par les privilèges qu'il accorde que tous les savants l'ont reconnu comme faux. Donc c'est là on est tombé, comme vous le disiez, Paul Bertrand, dans le côté blanc-noir de l'authentique et de l'inauthentique, où là, on va jeter l'opprobre sur ces documents en disant mais il est faux, et puis en plus, il est signé par des évêques de Dagobert qui n'étaient pas évêques du Dent de Dagobert, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est très amusant quand on lit leurs notes, de voir à quel point ils sont, pas fâchés, mais vraiment surpris de comment ça a pu tromper.
Voilà, on voit bien ces différents moments de la construction du faux et du rapport à l'écrit, mais aussi les différents moments du regard porté sur les faux, que ce soit avec Mabillon, Jean Mabillon, XVIIe siècle, religieux, historien, que ce soit avec ces chartistes du XIXe siècle et aujourd'hui encore, forger le faux, Paul Bertrand, c'est une plongée dans ce qui est en marge. En fait, le faux, on a tendance à vouloir le jeter en disant, mais ce n'est pas vrai, donc ça n'a pas d'intérêt, allons trouver le document authentique. Or là, avec le faux, je sais pas ce qu'on veut dire, qu'on a les deux, parce qu'on va retrouver notre document authentique et une seconde histoire qui est même plurielle, hein, parce que c'est la fabrication du faux et cette portée du faux au moment où il est créé.
Mais oui, donc là, ça fait déjà bien longtemps que les historiens s'intéressent aux faux, mais c'est vrai que jusque-là, la vision qu'on avait, une vision héritée du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, voire même du XVe siècle de Lorenzo Valla, hein, cet humaniste qui a en quelque sorte lancé le pavé dans la mare en disant que la donation de Constantin était fausse, c'est le début d'une espèce d'hypercritique, une hypercritique dont on est un peu sorti maintenant chez les historiens, en essayant de revaloriser cette place du document faux, cette place du document trafiqué, forgé, en se posant justement la question de ce qu'il y a vraiment derrière. Et au-delà même de la manipulation, qui sont absolument essentielles à la fois étudier et à comprendre, il y a la question du pourquoi, la question du comment, et la question tout simplement du statut du faux et de l'utilisation, de l'usage qu'on peut en faire.
Et puis la matérialité du document, hein, que vous étudiez notamment, Solène Girard, parce que c'est très important de saisir comment est constitué le faux, et puis comment nous-mêmes nous pouvons nous tromper croyant qu'il s'agit d'un faux, alors que c'est le hasard du temps qui a fait que des textes arrivent à toucher d'autres textes.
Oui, en fait... ça, c'est la particularité de ce corpus. Imaginez, évidemment, ils ont été collés tous ensemble au XIe siècle, texte contre texte. Vous imaginez que pendant 600 ans, les textes ont été donc les papyrus ont été collés ensemble avec de la colle. Vous décollez ça 600 ans plus tard, en apportant une grande quantité d'humidité, hein, si ce n'est pas les avoir baignés complètement. Eh bien, vous décollez tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Les textes, eh bien, ce sont les encres d'écriture se sont transférées les unes sur les autres. Donc aujourd'hui, les papyrus se retrouvent avec des écritures croisées, et vous en avez un formidable exemple aux Archives nationales à l'exposition. Si vous regardez bien du côté des originaux, vous allez avoir des écritures croisées, et c'est ce qui rend aujourd'hui aussi l'analyse du texte assez complexe, puisque eh bien, tout ce qui se retrouve sur toutes les décharges qui se retrouvent sur un document, ben, c'est qu'elles ont disparu de l'autre. Donc c'est l'intérêt aussi des recherches qu'on mène actuellement, c'est d'essayer de retrouver les associations. Et je suis très satisfaite de dire que nous sommes parvenus à retrouver tous les collages des transferts, retrouver les documents d'origine de ces transferts pour que combler les trous, en fait, pour dire aux historiens, ah, ben là, la partie qui manque, elle se retrouve, en fait, sur le papyrus là-bas. Et justement, il y en a un exemple, mais frappant, qui est dans l'exposition. Alors, ce sont des chartes carolingiennes, mais vous allez voir sur les chartes carolingiennes sur parchemin, il y a presque l'intégralité du texte du papyrus qui s'est déchargé dessus. Mais vraiment, il faut prendre un miroir, du coup, pour le lire, pour ceux qui savent lire le mérovingien. Et ça, c'est... Alors, parfois, effectivement, on a des transferts, mais vraiment très, très, très visibles. Et parfois, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et c'est pour ça que, jusqu'à très, très récemment, jusqu'à il y a quelques mois, il y avait des documents, on savait pas encore qui avait été collé contre quoi. Et il y a des toutes petites traces infimes, mais quand on regarde bien avec des microscopes, des loupes, et qu'on prend le temps avec des facsimilés, des films transparents, à rechercher, on retrouve des petites traces. Et alors ça, c'est une preuve irréfutable.
Et puis c'est l'émotion, j'imagine.
Oui,
aussi,
beaucoup d'émotions.
Au moment de la découverte. Pour terminer, dites-nous, Paul Bertrand, cette histoire de faux au Moyen-Âge, et on évoquait le rôle de Jean Mabillon, hein, ce religieux historien du XVIIe siècle, ça a beaucoup marqué la longue période du Moyen-Âge. Hein. Ça a été une tâche qui encore a collé. Hein. Ce sont des gens, on ne peut pas leur faire confiance.
Ah, mais c'est la légende noire du Moyen-Âge qui a été écrite à partir de la Renaissance jusqu'en plein 19e siècle et jusqu'à presque en plein 20e siècle. Hein. Le fait que ces médiévaux aient bricolé tant de documents a jeté l'opprobre sur toute la période. Il suffit d'avoir cette masse de documents faussés pour que tout d'un coup on se dise on peut pas leur faire confiance, somme toute. Les uns sont des faussaires, les autres sont des enfants qui les croient. Voilà, entre des médiévaux, entre des clercs trompeurs et des laïcs naïfs, le Moyen-Âge était ainsi rhabillé pour l'hiver, si j'ose dire, et c'est bien malheureux. Heureusement, voilà, les choses changent, et maintenant, c'est une nouvelle vision du Moyen-Âge qu'on essaie de donner.
Oui, et puis une vision plurielle du Moyen-Âge, parce qu'il faut le rappeler, 1000 ans d'histoire, ça ne se résume pas en un élément de pensée. La pensée évolue sans cesse. Vous travaillez sur quoi, là, actuellement, Solène Girard? Alors, vous êtes toujours sur les parchemins...
Sur les papyrus.
Les papyrus.
Tout le monde confond, c'est normal. Oui, je suis toujours sur les papyrus, sur le projet de recherche Pape Médan, qui continue, qui avance, sur lequel on mène donc tout un tas d'analyses, donc comme je le disais, le spectrométrie fluorescence des rayons X, pour essayer d'analyser la composition chimique des encres, donc en apprendre plus sur les pratiques de l'écrit au Moyen-Âge. On recherche aussi des traces de sceaux, qui soient authentiques ou faux. Et puis voilà, on mène des enquêtes dans les archives des archives pour retrouver les notes, le plus d'informations possibles sur les personnes qui ont travaillé, étudié ces documents, puisque c'est pratiquement pas documenté. Et en croisant les sources avec l'observation actuelle, eh bien, on retrouve leur histoire matérielle.
Le projet Pape Médan, c'est papyrus médiévaux des archives nationales.
Oui.
Merci vivement à vous deux, Solène Girard.
Merci
et vous, Paul Bertrand. Forger le faux, les usages de l'écrit au Moyen-Âge, c'est publié aux éditions du Seuil et nous saisissons combien votre travail, c'est pas simplement étudier les faux, c'est aussi ce mode de réflexion sur le Moyen-Âge, le rapport au vrai, au faux, à la preuve. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
Prochain épisode dans le cours de l'histoire, collectionner l'art médiéval, attention aux faussaires.
Qu'est-ce qu'un faux? C'est une chose qui est vendue sciemment. Qu'est-ce qu'un faux? Avec une fausse attribution. Voilà la vérité.
Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, à la technique Alex Dang. Émission préparée par Solène Roy, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet et Mayouen Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour son aide dans la recherche des archives. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et bien sûr sur l'appli Radio France.